Ce matin, c'est au bord du Mississippi que s'écrit le scénario du nouvel épisode de Pop & Co. Ça se passe à Memphis, Tennessee. Et la scène se déroule en intérieur, le jour comme la nuit, dans un vieux ciné désaffecté transformé en studio d'enregistrement. Juste à côté, il y a un magasin de disques. Le tout est tenu par Jim Stewart et sa sœur, Estelle Axton. C'est là que grâce à la musique, s'est inventée une utopie politique à la fin des années 50. Une utopie au cœur de l'Amérique raciste, avec une maison de disques. Un label qui s'appelle Stax. Son logo, c'est une main qui claque des doigts, mais dans les faits, cette main deviendra un point levé pour la cause afro-américaine. Stax est une bande-son qui résonne aujourd'hui encore dans le rap, autant que dans les combats du mouvement Black Lives Matter qui dénonce discrimination et violence policière auxquelles sont confrontés les Noirs. Stax, c'est plein de tubes, dont on ignore parfois le titre ou l'interprète, mais dès qu'on a le morceau dans l'oreille, on reconnaît. Parce que ces chansons, interprétées par Otis Redding, Isaac Hayes ou Sam & Dave, sont entrées dans l'imaginaire, dans la culture collective. Stax, une utopie américaine de 1959 à 1975, c'est le sous-titre de Pop & Co. Et Tout feu, tout flamme, c'est celui de la deuxième partie, avec une femme. Juliette Armanet vous emmène dans le cœur battant d'une de ses dernières chansons. C'est le dernier jour du disco. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et on se branche sur Europe 1.
Salut les copains.
Salut les copains.
Salut les copains, une émission qui fut d'abord diffusée le jeudi. Parce qu'à l'époque, c'était le jour où il n'y avait pas école. Et puis très vite, Salut les copains est devenu une émission musicale quotidienne. Ça veut dire que tous les jours, entre 17 et 19 heures, 40% des 12-15 ans prenaient un aller simple pour Memphis. Parce que ce morceau, devenu générique de l'émission, a été conçu à Memphis, dans les studios du label dont je vous parle ce matin, et qui s'appelle
Stax, S-T-A-X.
Voici Frédéric Adrian, journaliste au trimestriel Soul Bag, le magazine du blues et de la soul. Ce générique de Salut les copains, idéal pour le twist, est l'œuvre de The Marquise, un groupe à géométrie variable qui a l'originalité de faire un succès non pas avec une chanson, mais avec un instrumental. Le titre, c'est Last Night, et c'est le fruit d'une impro dans les studios de
Stax, S-T-A-X.
Et donc ça commence à Memphis, ville industrielle du sud des États-Unis. En 1968, dans l'émission télé Panorama, la ville était présentée comme ceci.
L'Amérique puritaine et raciste du sud s'efforce de cacher l'envers du décor, le ghetto noir. Le ghetto, c'est une prison dont il est difficile de s'échapper.
Memphis est alors la capitale du coton et compte 1600 églises.
Memphis, c'est aussi la ville du Ku Klux Klan et aussi de la John Birch Society, une organisation d'extrême droite paramilitaire et raciste.
En 1963, les autorités de la ville préfèrent par exemple fermer les piscines municipales plutôt que de les ouvrir aux habitants noirs. La ségrégation s'inscrit donc dans l'architecture de Memphis, mais parmi les lieux qui y échappent, il y a notamment les studios d'enregistrement où se côtoient noirs et blancs, les studios Sun, où Elvis fait ses débuts, et Stax Records, maison fondée à la fin des années 50 par deux blancs, un frère et une sœur, Jim Stewart et Estelle Axton. Frédéric Adrian.
Certes, l'état-major est essentiellement blanc, mais au niveau des musiciens, pas des chanteurs, pas des artistes visibles, mais au niveau des musiciens, des gens qui sont en coulisses, il y a de façon étrange, parce que ça n'a pas été calculé comme ça, une parité qui s'installe. La principale section rythmique, c'est de noir, de blanc, en permanence. La section cuivre principale, ce qu'on appellera après les Memphis Horns, c'est un trompettiste blanc et un saxophoniste noir. C'est quelque chose qui s'impose naturellement, même aux personnes concernées. J'ai eu la chance de discuter longuement avec un des membres des Memphis Horns, le trompettiste Wayne Jackson, et lui disait qu'il s'était jamais rendu compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Que le saxophoniste protagoniste, c'était son pote, qu'il était noir, qu'il savait bien que c'était pas comme ça que ça se faisait normalement, mais que c'était son pote, et qu'à aucun moment il y avait une réflexion sur ce sujet-là. Il y a une espèce d'utopie assez étrange qui se fait chez Stax, qui est cette rencontre entre personnes avec des parcours différents, se rencontrer autour de la musique.
Comment c'est perçu par l'Amérique, à ce moment-là, cette mixité ?
Eh bien, en fait, personne ne le sait. C'est un secret. Cette mixité, elle n'est pas affichée, c'est pas un élément de communication, c'est une réalité dans les faits, mais les personnes qui sont mises en avant, c'est toujours les artistes, et donc pas les gens dans les coulisses où c'est plus compliqué.
Parmi les premiers artistes qui signent avec ce label nouvellement nommé Stax, il y a Rufus Thomas, DJ d'une radio afro-américaine de Memphis et figure musicale de la ville. Rufus Thomas se présente chez Stax avec un morceau intitulé « Cause I Love You », duo qu'il interprète avec sa fille Carla. Grâce au succès de cette chanson, Stax va signer un contrat de distribution avec la maison Atlantique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les disques Stax ne seront plus simplement disponibles à Memphis et alentour, mais dans l'Amérique tout entière. Dans ces années-là, 1960, apparaît un autre label de musique soul plus au nord, à Détroit. Ce sera la maison Motown.
Quelque part, Stax, ça serait la version prolétaire de Motown. Le surnom du label, pendant très très longtemps chez Stax, c'était le petit label qui pouvait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la taille des autres. Et eux réussissent à imposer quelque chose qui vient du terrain, qui est très racinien, en effet, qui est très cohérent avec le reste de l'histoire des musiques afro-américaines. Quelqu'un comme Rufus Thomas, c'est un vrai passeur qui a fait tout le parcours de l'invention du blues, du jazz, de la soul, et qui, à chaque fois, charrie dans sa musique, dans sa façon de chanter, toute l'histoire des musiques afro-américaines. Chez Motown, les interprètes sont tous jeunes, tous un peu propres pour dire les choses comme ils sont, et envoient une autre image, une image idéalisé, quelque part, une image de bourgeoisie noire, qui est un concept politique sur ce plan-là. La musique de Stax, c'est une musique qui est plus prolétaire.
Cause I Love You est publié en 1960 et le musicien qui y joue du saxophone baryton s'appelle Booker T. Jones. Il a 16 ans cette année-là. Et parce que c'est le plus jeune, il va prendre la tête de la formation attitrée de Stax. Ça va s'appeler Booker T. and the MGs, qu'on peut traduire par Booker T. et le groupe de Memphis. Il y a deux Afro-Américains, Booker T. Jones à l'orgue et Al Jackson à la batterie, et deux Blancs, Donald Duck Dunn à la basse et Steve Cropper à la guitare. Quatre musiciens comme le carré d'as de Stax. En 1962, ils font un tube qui s'intitule Green Onions.
Ça commence par un petit riff d'orgue avec la section rythmique derrière, donc quelque chose de relativement lancinant, de relativement répétitif, qui d'un seul coup est tranché par l'arrivée de la guitare qui est très percutante, très métallique, un peu rock, et qui vient rajouter une autre histoire, quelque chose probablement d'un peu plus violent, un peu plus agressif, et l'ensemble se combine pour ensuite poursuivre un morceau qui pourrait durer d'ailleurs des heures et des heures, puisque c'est un morceau qui se prête beaucoup à l'improvisation.
Quelle mesure un son est en train de s'inventer à ce moment-là ?
C'est cette combinaison d'un côté très très accessible, très très pop, et en même temps de racines historiques vraiment issues de la communauté afro-américaine. L'orgue de Booker T, c'est les racines afro-américaines, c'est l'église. Et en y ajoutant la culture un peu plus rock'n'roll, un peu plus rock de Steve Cropper. C'est vraiment la combinaison de ces deux influences qui construit le son. C'est une balise parce que ça montre la capacité de produire en interne réellement du succès. Il y a Booker T's MJ, c'est l'orchestre de studio de Stax. C'est les gens qui sont là, qui arrivent dans l'après-midi, qui enregistrent toute la nuit avec tous les artistes possibles et imaginables. Et d'un seul coup, ces gens-là arrivent à inventer ce morceau qui devient un tube assez improbable parce que c'est un morceau instrumental. C'est rare qu'on ait eu des instrumentaux à cette époque-là qui arrivent au sommet des hit-parades. Et c'est une vraie déclaration d'intention. C'est un morceau qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre. C'est plutôt lent, c'est un petit peu de jazz, un petit peu d'improvisation. C'est un morceau assez étrange, finalement.
Le son Stax est posé et il va attirer des artistes qui vont se déplacer jusqu'à Memphis pour le trouver. C'est le cas de Sam and Dave, un duo de Chicago qui n'a pas encore trouvé la musique, le bon décor qu'il faut pour raconter leur énergie sur scène. Et c'est chez Stax que ça va se passer. Avec deux piliers maison aux manettes, Isaac Hayes et David Porter.
Soulman, c'est l'hymne. C'est une balise, évidemment, dans l'histoire du label. C'est un grand succès. C'est une déclaration d'intention. C'est voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons faire. Affirmation identitaire, quand même. C'est pas par hasard. Soulman, ça veut dire quelque chose au-delà de la musique. Le mot soul, il ne décrit pas que la musique dans un morceau comme Soulman. C'est la revendication d'un parcours, c'est-à-dire de la réussite qui arrive au fur et à mesure en partant de éventuellement de très très bas. C'est le début de la chanson, ça raconte ça. J'ai été élevé dans le sud, toutes ces choses-là, et c'est la revendication en effet d'une appartenance culturelle qui se manifeste par les fringues, qui se manifeste par la danse, dans le chant, et dans ce rapport aux autres, dans ce rapport communautaire. Et donc cette affirmation soulman, elle a un sens politique également. Stax,
Pop & Co,
STAX,
Rebecca Manzoni.
C'est dit. Ce matin, Pop & Co et Pop & Stax, l'histoire d'un label discographique où s'est inventée la musique soul du sud des États-Unis.
C'est vous qui allez chanter maintenant, je voudrais vous dire quelque chose.
On est à l'Olympia le 23 juillet 67.
Je voudrais vous signaler qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Otis Redding, alors vous allez chanter pour lui. Happy birthday to you. Hey, maestro, can we go?
Yes, il can go. Happy birthday pour Otis Redding, grande vedette du label Stax. Les spectateurs français l'ont chanté. Faux. Et après, Otis Redding s'est avancé au bord de la scène de l'Olympia pour faire chanter le public.
I want everybody to say na 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 na. Okay, one more time, now, real loud. Na 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 na. Everybody say it loud. Keep it pushing, gonna keep it pushing, y'all. You got to take it, keep on a pushing, girl. Got to keep on a pushing, y'all. Got to keep it, keep on a pushing, y'all. Got to keep it, keep on, pick it up.
Frédéric Adrien, journaliste à Soul Bag et auteur d'une biographie d'Otis Redding.
Otis Redding, il change l'histoire du label Stax parce qu'il a immédiatement un très très grand succès. Dès son premier 45 tours, ça marche tout de suite très très bien. Et il a la personnalité et le charisme qui dépassent ses collègues de l'époque. Il y a de super interprètes chez Stax dès le tout début, des gens comme William Bell, comme Eddie Floyd, qui ont vraiment un grand talent, qui sont des grands chanteurs. Mais Otis Redding, il est plus que ça. On sent l'effort quand on entend Otis Redding. On crie, on transpire, on bouge. D'ailleurs, quand on voit des images de concerts d'Otis Redding, il chante rarement très très longtemps et il est visiblement épuisé à la fin. On sent que c'est il se bat avec la musique, il se bat avec le son pour porter sa voix.
Il y a un côté musique de la sueur.
Tout à fait. Le mot qui désigne l'odeur de sueur en anglais, c'est funk, qui deviendra ensuite le nom d'un genre musical, qui ressemble assez à ce qui s'invente d'ailleurs à cette époque-là. Et en effet, c'est de la musique qui sent la transpiration, qui sent le fait de s'être battu pour arriver là. C'est l'idée de la réussite par soi-même aussi. Otis Redding, comme James Brown par exemple, c'est des gens qui ont très très en tête l'idée d'un capitalisme noir, c'est-à-dire d'une réussite de la communauté afro-américaine, non pas parce qu'on viendrait leur donner des choses, mais parce qu'ils iraient les chercher, y compris en respectant les codes du capitalisme, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de subventions, ils ne demandent pas d'aide, ils ne demandent pas de choses comme ça, ils veulent aller chercher les choses par eux-mêmes. Et je pense que cette notion-là, elle se traduit dans la musique par un côté « on fait tout soi-même ».
Cela dit, dans le répertoire d'Otis Redding, il y a des reprises aussi. Et parfois, son interprétation surpasse même la chanson originale pour devenir totalement la sienne. En 1966, Otis Redding reprend Satisfaction des Stones.
Cette reprise-là, d'abord, elle montre la volonté de Redding d'accéder au commerce, hein, d'accéder au public blanc. Parce qu'aller reprendre cette chose-là, c'est aussi vouloir donner un morceau au public blanc dont il est familier et dont il peut avoir envie d'entendre une autre version. Donc c'est le lien entre la musique pop telle qu'elle s'invente chez les Anglais et la musique afro-américaine. Complètement dans l'esprit Stax, de se dire, il n'y a pas de question de couleur, il n'y a pas de question de communauté, c'est une seule musique finalement. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les Beatles envisagent de venir enregistrer dans les studios Stax. Ça ne se fait pas parce que, très clairement, les studios Stax, c'est minuscule, c'est dans un quartier un petit peu bizarre, et donc personne ne pense que ce soit sécure de venir organiser une séance d'enregistrement des Beatles là, mais leur envie, c'est d'aller enregistrer chez Stax.
On se rend compte à quel point Nino Ferrer a pompé le son de Stax pour ses premiers tubes.
Keith Richards, qui est l'auteur de Satisfaction, Richards dit, et c'est comme ça que le morceau il doit sonner.
Là aussi, le morceau pourrait durer encore des heures, mais dans la régie des studios Stax, il y avait un technicien, ou Jim Stewart lui-même, le patron du label, qui baissait simplement le volume pour mettre fin au morceau. Un an après cette reprise de Satisfaction, Otis Redding se retrouve à Monterey, en Californie, premier festival pop de l'histoire. Mais 6 mois après son triomphe au festival de Monterey, le 10 décembre 1967, l'avion privé d'Otis Redding s'abîme dans les eaux du lac Monona, dans le Wisconsin. Il meurt à l'âge de 27 ans, et avec lui, la plupart des musiciens des Bar Keys, la section de cuivre du label Stax qui l'accompagnait.
4 top inter, il est 13h.
Nous sommes le 4 avril 1968.
Pierre Charpentier, le journal d'interactualité.
Le pasteur Martin Luther King, le chef de file du mouvement noir non violent aux États-Unis, a donc été assassiné. Il était au balcon de sa chambre dans un hôtel de Memphis, au Tennessee. Une seule balle l'a abattu, tirée par une carabine à lunettes. L'assassin était posté dans une maison en face. Jusqu'à présent, cet assassin, on ne le connaît pas. Il n'a pas été retrouvé. Et ce qu'on craint surtout, c'est une explosion de colère à travers toutes les communautés noires des États-Unis.
L'assassinat de Martin Luther King, bon, c'est un choc pour toute l'Amérique, bien entendu, pour l'ensemble des communautés, noires comme blanches, mais c'est aussi un choc particulier pour Memphis et pour Stax en particulier, parce qu'en fait, c'est à côté. Le Lorraine Motel où Martin Luther King est assassiné, qui est depuis devenu un musée, c'est l'hôtel le plus proche des studios Stax. Quand Otis Redding vient enregistrer, quand les autres musiciens qui habitent pas dans le coin viennent à Memphis, ils viennent loger au Lorraine Motel. Donc le Lorraine Motel, c'est quelque chose qui est très familier aux gens de chez Stax. C'est le voisinage, c'est le quartier. Et que ça arrive comme ça, à côté de chez eux, dans leur jardin, c'est un signe qui est extrêmement violent. Et après l'assassinat de Martin Luther King, une grande partie de la communauté afro-américaine se radicalise en disant, écoutez, on a essayé la non-violence, regardez comment ça finit. Donc très clairement, la petite utopie de chez Stax, qui était quand même ambitieuse, puisque Jim Stewart avait fait le choix de donner des places de cadre à des Afro-Américains, même de prendre lui-même du recul par rapport à son pouvoir pour faire une place à des Afro-Américains, parce qu'il pensait que c'était légitime que des représentants de la communauté afro-américaine participent aussi à l'élément business de chez Stax, y compris à son succès commercial. Toute cette utopie-là, elle tombe un petit peu en morceaux, et un certain nombre des acteurs de cette dimension utopique décide à ce moment-là de s'en aller de chez Stax progressivement.
Les années 67 et 68 sont donc des années sombres pour le label Stax. Mort accidentelle d'Otis Redding, assassinat de Martin Luther King, perte des droits musicaux sur les morceaux du catalogue. Mais Stax va se réinventer avec un nouvel homme aux manettes. Il s'appelle Al Bell. Et Al Bell va dire oui à l'ambition d'un des artistes Stax qui œuvrait en coulisses jusqu'ici. C'est Isaac Hayes. En 1969, Isaac Hayes publie son deuxième album solo, Hot Buttered Soul. Le disque fait entrer la musique soul dans l'ère moderne. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet and walk on by. Le disque compte 4 morceaux de 5 à 19 minutes, dont cette reprise, Walk On By, composé par Burt Bacharach.
Il y a la volonté de se réapproprier la culture musicale classique, à la fois par le répertoire donc de chansons du grand répertoire de variété américaine qui sont plutôt pratiquées par des musiciens blancs, par des chanteurs blancs, et puis en effet par l'ambition et la démesure artistique qui dit que bah, tiens, on va prendre toutes les cordes de l'orchestre symphonique de Memphis pour les mettre sur mon disque. Et en gardant comme élément central sa voix. Et cette voix très marquée afro-américaine, enfin il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui chantent de cette façon-là, il y a très clairement une volonté d'intégrer des éléments venant de la culture entre guillemets grand public, noble, etc. C'est-à-dire les cordes, le classique, les grandes introductions, les morceaux qui durent un quart d'heure, voire 20 minutes, une seule face pour un morceau. Ça, c'est une volonté de dire les codes dans lesquels vous enfermez globalement les musiques afro-américaines. Moi, ils me sont indifférents. Le single de 2 minutes 30, je sais le faire, je l'ai prouvé, j'ai fait ça toute ma vie. Le truc pour danser, ça fait 10 ans que j'en fais, je sais le faire. Maintenant, je vais vous proposer autre chose qui respecte aucun des codes dans lesquels vous essayez d'enfermer l'industrie. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah. Make believe you never see the tears of cry. So I'm begging you to walk on by. Make believe you never see the tears of cry. Oh, there's no dust in my eye. Oh no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. Avec ses disques de cette époque-là, et quelques années d'avance, il invente le disco. Toutes les évolutions du funk et du disco qui vont se mettre en place à partir, on va dire, milieu des années 70, ce que fera Barry White. Quelque part, Barry White et ensuite les gens du disco vulgarisent, simplifient, en rajoutant des tempos très très basiques, des choses comme ça, les innovations d'Isaac Hayes, tandis qu'Isaac Hayes se retrouve à rester un petit peu de côté et à finalement à faire, dans la deuxième partie des années 70, des disques qui courent après ce que fait Barry White, ce qui est hyper injuste puisque c'est lui qui a tout inventé.
Isaac Hayes a même créé le maître étalon de la musique de film des années 70 en composant la bande originale d'un long métrage de Gordon Parks, c'est Shaft. Shaft lance le mouvement de la Blaxploitation, des films réalisés et joués par des Afro-Américains. Isaac Hayes est le premier Afro-Américain à emporter un Oscar pour la musique de Shaft. Il ouvre la voix du cinéma à d'autres compositeurs de sa communauté comme Curtis Mayfield ou Bobby Womack. Le 20 août 1972, c'est avec ce morceau de Shaft qu'Isaac Hayes apparaît au Los Angeles Memorial Coliseum pour plus de 6 heures de concert. Ce concert de 1972 est un événement dans l'histoire afro-américaine. Il s'appelle Watts Stax. Ce mot, c'est l'association du nom Stax et de celui de Watts, ghetto au sud de Los Angeles qui vécut des émeutes 7 ans plus tôt. Pour Watts Stax, plus de 100 000 spectateurs afro-américains sont là. Et le révérend Jesse Jackson, candidat malheureux à la primaire démocrate, harangue la foule pour déclamer une prière nommée « La litanie noire nationale ». Je suis quelqu'un. Je suis peut-être pauvre, mais je suis quelqu'un. Je touche peut-être une aide sociale, mais je suis quelqu'un. Je n'ai peut-être pas de qualification, mais je suis quelqu'un. Je suis noir, magnifique, fier. Je dois être respecté. Frédéric Adrian.
C'est regarder ce qu'on est, regarder comment on est beau. Parce que Watts Stax, c'est filmé, il y a des images. C'est aussi une affirmation de Black is Beautiful. Enfin, c'est un ensemble de phénomènes qui se regroupent autour de tout ça. C'est une démonstration de force, une démonstration de capacité d'organisation. Il y a eu Woodstock 3 ans plus tôt. Regardez, nous, on peut faire notre Woodstock à nous, y compris un peu de façon strictement communautaire. C'est, le public est intégralement afro-américain, les artistes sont tous afro-américains. Il y a une volonté d'affirmation artistique, culturelle, politique, esthétique autour d'un événement marquant.
Il y a une image iconique de ce festival, c'est l'arrivée d'Isaac Hayes sur scène.
Alors Isaac Hayes, donc, qui est déjà une très grande vedette, qui a reçu un Oscar quelques semaines plus tôt, enfin qui est vraiment la grande star afro-américaine, il arrive sur scène avec ce costume, enfin c'est même pas un costume puisqu'il est torse nu avec des énormes chaînes en or, et il arrive en voiture, il traverse tout le stade dans une voiture de luxe. C'est une démonstration de pouvoir. C'est regarder où on peut arriver. Mais sans oublier, puisque les chaînes, c'est des chaînes en or, donc elles symbolisent la richesse, bien entendu, mais elles symbolisent aussi l'histoire de l'esclavage. Donc c'est une manifestation spectaculaire du parcours accompli, de là où on vient et vers où on peut arriver. Alors c'est très tapageur, c'est très spectaculaire, mais c'est aussi une volonté de dire, on a le droit aussi. On n'est pas obligé d'être modeste, on n'est pas obligé de dire merci de ce que vous nous avez donné, on peut aussi être un peu arrogant, dire « Regardez, la réussite, c'est ça. »
Mais ça, c'est tous les fondamentaux de la culture du rap et de la culture hip-hop.
Bien sûr, un type comme Isaac Hayes, il pose, et dans sa musique, et dans son attitude, d'une façon générale, tout ce que développera ensuite une partie, en tout cas du hip-hop, la partie la plus tapageuse.
3 ans après Watts Stax, la veille de Noël 1975, Stax ferme ses portes pour cause de faillite. Le fisc américain a mis son nez dans les comptes du label et repéré des mouvements de fonds suspects auxquels serait mêlée la mafia. Certains supposent que la visibilité, les moyens, donc la puissance de Stax étendard de la communauté afro-américaine, avait aussi fini par déranger le FBI. Que reste-t-il de Stax ? Un film raconte l'importance de l'héritage de ce label mythique dans l'Amérique d'aujourd'hui. Il s'intitule Soul Kids et il est en salle depuis mercredi. Vous venez d'entendre les élèves de la Stax Music Academy, une école extrascolaire où des ados de Memphis reçoivent un enseignement artistique gratuit qui s'appuie sur les chansons éditées par Stax. Le film est signé Hugo Sobelman. Que représente ce répertoire du label Stax pour les jeunes Américains qui vivent à Memphis aujourd'hui ?
Un accès, un point d'accès à l'histoire noire américaine, justement. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce qui se passait dans cette école aussi, et l'utilité d'apprendre ces chansons et de connecter ces enfants à leur propre histoire et au passé, c'est c'est que ça compense un manque terrible dans les programmes d'histoire des écoles publiques aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, il y a quand même quelque chose qui est le Black History Month, ce qui veut dire que pendant un mois, qui est le mois de février, le programme scolaire se concentre exclusivement sur l'histoire nord-américaine. C'est, pour en avoir parlé avec certains élèves, certains professeurs de la STAX, la meilleure manière de dire que pendant les 11 mois restants de l'année, on n'en parle pas. Et ce qui se passe à la STAX, c'est un quotidien autour de l'histoire nord-américaine, en réalité. Il s'agit d'encourager les élèves à comprendre le rôle et le pouvoir qu'ils peuvent avoir en tant qu'artistes pour exprimer ces choses-là. Et l'étude du catalogue STAX permet à ces élèves d'avoir des exemples très précis avec lesquels ils peuvent vraiment connecter leur réalité aujourd'hui, puisqu'il y a encore des combats à mener.
Oh, Christina, come on.
Extrait de Soul Kids, où une élève apprend la chanson Long Walk to DC que les Staple Singers ont gravée sur disque pour STAX.
It's a long walk to DC, but I've got my walking shoes.
Oh, well,
can't take a plane, pass a train, cause my money ain't that long. Oh, America,
we believe.
Oh, that you love us still.
Love us still.
So people, I'm gonna be under.
Yeah.
To wipe away my tears, I tell you, it's a long walk to DC.
Yeah.
But I'm on my way.
Yes, I am. Low old degree.
But I know I'll make it someday.
J'essaye de la traduire un peu littéralement en français. C'est une très longue marche jusqu'à Washington. J'ai pas de quoi m'acheter un billet de train, j'ai pas de quoi prendre l'avion, mais j'ai des bottes et je marcherai jusqu'à cette marche.
Cette marche est celle qui réunit 200 à 300 000 personnes à Washington le 28 août 1963, jour où Martin Luther King a prononcé son discours dont les mots les plus connus sont « I have a dream ».
Moi, quand j'y ai été, donc c'était en effet en 2018, et on commémorait à Memphis les 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. Et je sais que pendant l'année scolaire que moi j'ai eu l'occasion d'assister et de filmer, il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs il y en a plusieurs qu'on peut voir dans le film, autour de ce qui s'est passé en 68 et à quel point à l'époque la musique Stax a pu accompagner ces combats. Et de pouvoir créer un pont entre ce qui s'est passé avant et cette grande tradition orale noire américaine, mais qui en réalité remonte à l'histoire orale ouest-africaine, évidemment, jusqu'au blues, aux spirituals, au blues, au jazz, etc. Cette longue tradition, il faut la perpétuer et comprendre dans quelle mesure ces artistes se sont engagés et ont apporté leur pierre à l'édifice dans ces combats-là.
It's not just sentimental, no. She has her grief and care, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier. Too bad, yeah. You won't regret it, no. Now, girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. All you gotta do is try.
Celui qui avait la casquette de guide pour ce Pop & Co dédié au label Stax, c'est Frédéric Adrian. Il est l'auteur d'une biographie d'Otis Redding parue aux éditions du Castor Astral. Et Frédéric Adrian est aussi journaliste pour le trimestriel Soul Bag, magazine du blues et de la soul. Soul Kids, premier film de Hugo Sobelman consacré aux ados de Memphis qui se construisent avec le répertoire de la Stax. Soul Kids, donc, est en salle en ce moment.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Ah oui, oula, il y a tout ça.
C'est ce qu'elle a dit en parcourant la liste des morceaux que diffuse France Inter. La règle est de n'en choisir qu'un seul. Aujourd'hui, c'est donc Juliette Armanet qui décide du prochain disque dans Pop & Co.
Bon, voilà, j'ai dit en tout premier, sans réfléchir, Malik Judy, Vertige. Ça me touche vachement cet album de Malik, je le trouve magnifique. Voilà, il a sa voix au perché comme ça, j'aime bien. Quelle singularité, Malik Judy.
Singularité, on ne peut pas mieux dire. Je me permets d'ajouter deux adjectifs, poignant et élégant. Le nouvel album de Malik Judy s'intitule 3 avec un E comme la ville. C'est pas tout à fait comme ça qu'on devait commencer. Juliette Armanet dans le bureau de Pop & Co avec son ordi ouvert pour vous faire écouter quelques-uns des 380 éléments qui composent cette chanson indomptable d'un peu plus de 3 minutes 30, le dernier jour du disco. C'est la chanson d'ouverture de son deuxième album, Brûler le feu. On pense à allumer le feu. Johnny, le Stade de France, un péplum. Et elle est contente qu'on pense à ça.
J'ai hésité, j'avais plein d'idées de pochettes, très mauvais goût, vraiment de... très kitsch et tout. Et en fait, comme pour moi, ce titre de disque, il représente quelque chose de très intime. Un vrai combat de résurrection, de faire en sorte que justement ce feu passionnel soit pas un feu destructeur, mais un feu créateur, de survivre à la passion. j'avais envie de faire une pochette beaucoup plus intime que ça. Je suis nue avec juste un foulard de cow-boy, les cheveux dans le vent. Je regarde une allumette que j'ai dans la bouche et qui est allumée, évidemment.
Vous vous êtes rêvé en cow-boy torse nu, quoi.
Bah ouais, c'est un peu ce que je suis quand même. mais ouais, je suis un peu un vieux cow-boy, ouais. Romantique.
Comment c'est venu ces mots-là, le dernier jour du disco?
Eh bien, ce ne sont pas les miens. C'est les mots d'une amie qui s'appelle Diane. Et un jour, je lui ai dit, viens à la maison, j'ai besoin de te parler de mon disque. Je lui fais écouter quelques titres en lui disant, voilà, moi j'aimerais bien que mon disque, ce soit un peu un truc de cow-boy qui marche dans un crépuscule. Et elle me dit, ah ouais, c'est vraiment ton trip, c'est vraiment le dernier jour du disco, quoi. Et j'ai noté cette phrase. Ça faisait écho à tellement de choses pour moi. La fin d'une relation, la fin d'un certain monde, la fin d'une histoire. Et en même temps, c'est comme les 10 secondes avant qu'on rallume la lumière dans une boîte de nuit. C'est le moment, le climax de la fête, le climax d'un amour. C'est juste les 10 secondes avant qu'on dise « clap de fin, c'est fini ». Le dernier jour de disco. C'est la fin.
Le dernier jour du disco est une chanson produite par Sébastien. Juliette Armanet en a écrit le texte et co-composé la mélodie avec son frère. Si on effeuille cette chanson comme une marguerite, il reste le piano.
La chanson est née comme ça, hein, de toute manière. Je l'ai composée comme ça.
Je veux le passer sur ta peau.
Avec juste le piano et la voix. Là, justement, ça me saute aux oreilles. Les couplets sont vraiment très drama en mineur. On tourne autour de la douleur comme ça.
Drama queen, un peu.
Total drama queen, total, mais ça j'adore. Mais j'avais hésité à appeler mon album comme ça, d'ailleurs. Mais les refrains, justement, ce que je trouve cool, c'est que les refrains amènent une vraie lumière et que d'un seul coup, il y a un soleil qui rentre. Il y a un espoir qui arrive et en fait j'aime beaucoup le contraste entre ces couplets très très intenses et le refrain qui vient te prendre par la main et qui te dit allez vas-y.
Alors si on parle du rythme justement, ouais. Si on écoute la pulsation on va dire.
Alors.
Vous vous êtes marré en écoutant là.
Parce que quand on écoute ça en solo, on a l'impression d'être à Ibiza, quoi, au Macumba Club. Enfin, il y a un truc, c'est déroutant. Il y a un truc très, allez, on y va, soirée disco. Et il y a un truc très club, quoi. Donc c'est étonnant. Moi, je ressens pas ça quand j'écoute la chanson, par exemple. Donc quand on désosse, on tombe sur des os. Oh putain.
Entrer dans le cœur de la chanson Le dernier jour du disco de Juliette Armanet, ce matin c'est Pop & Co. Les arrangements de cordes du morceau sont signés Sébastien.
On ne s'excuse pas de mettre des cordes, on n'y va pas sur la pointe des pieds. Il y a quelque chose qui est très cinématographique, qui est complètement assumé, qui va dans les hauteurs, il y a beaucoup de portamento, ça glisse, ça bouge.
C'est quoi les portamento?
C'est quand on fait. Quand c'est un peu menaçant, quand c'est pas de la corde lisse, toute plate, beaucoup de mouvements de corde, quoi. Mais moi, j'aime cette disco-là parce que c'est une disco un peu glam rock. Il y a un truc sauvage que j'aime beaucoup, auquel je tiens énormément.
Il y a une dramaturgie dans la chanson aussi. C'est vraiment comme un petit film, ouais, avec... Vous les pensez comme ça ? En disant, bon, alors, acte 1...
C'est, le côté acte 1 et tout ça, ça me parle vachement, parce que c'était un peu un mini-opéra pour moi, cette chanson, avec ce début comme ça, comme un lever de rideau, très drama, comme ça, on entre dans la chanson, c'est comme une scène d'exposition, et puis d'un seul coup, on est surpris, la batterie entre, la cavalerie arrive, le refrain s'anime, puis il y a ce couplet où d'un seul coup, on retombe un peu, on garde juste le kick, comme pour reprendre un peu son souffle, mais le danger revient, les violons s'énervent. Donc ouais, j'avais envie qu'il y ait un peu ce côté petit opéra dans la chanson, ça me parlait vachement ça, ouais.
C'est la fin, je vois sur le dessin quelque chose de divin, ton Éden, mon jardin. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau.
En tout cas, la voix là, elle est un peu presque au bord de l'éclatement. Elle a quelque chose de la, du presque l'ordre du cri, quoi. Et ça, j'y tenais vachement parce que c'est ça qui fait la singularité de cette chanson là, c'est qu'elle soit presque hurlée, quoi.
Le dernier jour du disco, je peux l'entendre en stéréo et te dire.
Je sais pas, c'était un surgissement et j'ai jamais eu peur de ça. Je sais que les gens à qui j'ai fait écouter la chanson au début étaient un peu inquiets de que la voix aille aussi haut dans le décrochage. Mais moi, j'y tenais vachement.
Et en même temps, c'est assez casse-gueule à chanter. Non ? C'est extrêmement physique. On tremble un peu pour vous aussi.
Ah ben génial ! C'est qu'il y a un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, bon, on est Madame Tout-le-Monde, on chante... Mais celle-là, elle a du danger. S'il y a du danger dans une chanson, c'est ça qui fait qu'on l'aime.
C'est la fin, les couleurs soudain se confondent au fusain. Ne me lâche pas, c'est rien. C'est la fin, je vois sur le dessin quelque chose.
Feu, c'est le titre du nouvel album de Juliette Armanet. Pour la première fois, elle a joué le disque sur scène en direct, c'était hier soir. Ça s'est passé au studio 104 de la Maison de la Radio pour France Inter. Et ce concert est disponible à l'écoute pendant les 8 prochains jours. La tournée de Juliette Armanet commence à Nîmes le 22 janvier. Elle est à l'Olympia à Paris les 16 et 17 février, à Marseille le 8 mars, etc. etc. Des dates sont calées jusqu'en novembre 2022. Koyen Guyenne réalise cette émission chaque semaine et c'était avec Sybille Clamens ce matin. Ilinka Negulesco trouve les archives, la doc, les invités et Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Christophe. Du moment où il a crié Aline jusqu'à celui où il a murmuré Dangereuse. Christophe d'Aline à Dangereuse. À samedi.